Chapitre 16. De toute sa vie, jamais Mary Swann n'a été aussi heureuse. Elle tient entre ses petits doigts le livre que ses parents viennent de lui offrir. Elle fait défiler les images colorées. Elle adore surtout celle de la planète avec la rose et les baobabs. Elle a trop hâte de courir dans sa chambre pour le lire, car elle sait lire maintenant. Elle a 6 ans depuis 2 mois. Elle relit encore le titre sur la couverture, « The Little Prince ». Puis, elle sort la feuille qu'elle a glissée entre les pages. Elle admire la petite étoile dessinée à la plume par le grand monsieur français et les mots qu'il a écrits à la main, pour elle. Rien que pour elle. Ça, c'est l'étoile qu'habitait Mary Swann avant sa naissance. Depuis que Mary Swann en est partie, l'étoile s'est éteinte. Elle serre le livre contre son cœur, tel le plus précieux des trésors. Elle se souvient. Ce livre aussi, le grand monsieur français l'a écrit pour elle, rien que pour elle. Il lui a dit en la soulevant dans ses très longs bras et en la faisant tourner comme un avion. Jamais papa ou maman ne font ça. Ce grand monsieur français, quand il vient dîner le soir, prend toujours du temps avec elle pour raconter une histoire en faisant de grands gestes de la main, à la manière des personnages de dessins animés vu qu'elle ne comprend pas 3 mots de français. Et surtout, il dessine. Partout. Surtout. Des petits bonhommes magiques aux cheveux blonds, comme elle. Tout décoiffé. Pas comme elle. Maman passe chaque matin 3 heures à la peigner. Maintenant, le grand monsieur français ne la regarde plus. Il est à table avec les autres grandes personnes. Il discute de choses sérieuses qu'elle ne comprend pas, de la politique, de la guerre. Il parle et il boit. Elle sait qu'il est célèbre, qu'il écrit des livres que lisent les grands. Elle voudrait qu'il se lève et vienne s'amuser avec elle. Elle voudrait oser lui demander. La prochaine fois, quand il reviendra, elle osera. Il vient souvent. La dernière fois, quand elle a poliment retiré son béret devant lui, il lui a dit qu'elle était jolie, blonde comme les blés, rieuse comme 500 millions d'étoiles. Mais ensuite, il est reparti discuter avec les grandes personnes. Oui, la prochaine fois, elle lui demandera de lui raconter son livre, de lui expliquer ce qu'elle ne comprend pas, de lui dessiner de nouveaux dessins. Il n'est jamais revenu. Un jour, elle s'arme de courage et elle demande à maman pourquoi il n'invite plus le grand monsieur français, pourquoi elle ne l'a jamais revu depuis que ses parents lui ont acheté son livre. Maman s'accroupit à hauteur d'elle et la regarde avec des yeux sérieux. Il est parti à la guerre, mon bébé. Il ne reviendra plus. Plus jamais. Mary Swann a toute sa vie conservé son exemplaire du Little Prince, sans jamais perdre la dédicace de Saint-Exupéry qu'elle a glissée entre les pages. Dans sa chambre d'adolescente, sur la 6e avenue, face au musée d'art moderne, elle a accroché un poster de James Dean. Aucun garçon ne sera jamais aussi beau que lui, mais la beauté ne compte pas. Seul compte l'esprit. Aucun garçon n'est à la hauteur de l'esprit de Saint-Exupéry. Elle tombe amoureuse de lui. Elle collecte tous les documents, les livres, les lettres sur Saint-Exupéry. Elle devient l'une des meilleures spécialistes de son œuvre, même si elle est déçue quand elle apprend les prénoms de ses maîtresses, quand elle découvre un texte où Saint-Exupéry avoue qu'il ne voulait pas apprendre l'anglais parce que ses gestes faisaient sourire les Américaines et qu'il ne voulait pas se priver de ce sourire. Elle est déçue quand elle comprend que Saint-Exupéry préférait le sourire des femmes à celui des petites filles. À 30 ans, Mary Swann se marie à la chapelle Saint-Paul, juste en face des toutes nouvelles tours jumelles du World Trade Center, avec un riche industriel qui aime le bridge, le golf, la politique et les cravates. Mary Swann dessine, s'exprime, tresse des rimes, des proses, compose, expose. Elle aime les compliments de ses amis, quand elle ôte avec élégance son chapeau en entrant dans une galerie. Elle aime les compliments de ses amants quand elle ôte tous ses autres vêtements. Elle aime aussi son industriel de mari. Elle le sait plus vieux qu'elle, plus pressé, plus stressé. Elle l'aime à sa façon. Elle trouve admirable sa façon d'être adulte, d'avoir arraché toutes les racines de son enfance sans jamais piétiner la sienne. Mais avant tout, elle aime Saint-Exupéry, ce visiteur du soir qui la trouvait jolie, ce géant qui parlait une autre langue. Elle pense que depuis qu'il est parti, son étoile s'est éteinte. Elle se persuade qu'il est vivant. Elle se persuade qu'il l'attend. Quelque part, sur une étoile qu'elle saura rallumer. Dans sa tête, Saint-Exupéry a toujours 40 ans. Il ne vieillit pas, mais les autres femmes de sa vie, oui. Et Saint-Exupéry se lassait des femmes vieilles. Elle se persuade que son tour viendra. Parfois, elle travestit son nom. Elle se fait appeler Marie Star plutôt que Marie Swan. Elle relit souvent Le Petit Prince et la façon dont il décrit sa rose. Vaniteuse, ombrageuse, orgueilleuse. La rose dont il est amoureux. Elle fait tatouer ces mots sur son omoplate. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. Elle aime qu'un homme derrière elle dégrafe sa robe et découvre ces mots qui sont toute sa vie. Ému comme Saint-Exupéry l'était. À 50 ans, Marie-Swann est veuve depuis moins d'un an quand Okodolo la contacte. Un businessman, encore un. Elle n'en sera donc jamais débarrassée. Mais non. Celui-ci, inexplicablement, est un très fin connaisseur du Petit Prince. Elle est tout de suite séduite par son idée de Club 612. Comme lui, elle a toujours été convaincue que Saint-Exupéry ne pouvait être parti sans avoir rédigé de testament. Que son livre contient un secret. Qu'elle peut le découvrir. Elle ignore ce qui motive cet Okodolo. Par contre, elle connaît sa propre motivation. Elle veut retrouver Saint-Exupéry. Elle l'aime. Elle met ses relations au service du Club 612. Ses informations, son entre-gens, comme l'on dit maintenant. Oko est le financeur du Club 612 et elle en est la présidente. C'était il y a si longtemps. Marie-Swann fait rouler son fauteuil jusqu'à la table basse de son salon et observe encore la boîte rectangulaire aux trois trous. Qui l'a envoyé? Oko? Par le même courrier que les deux enquêteurs français, la gamine insolente et le pilote crétin, ces deux nigauds qu'elle a baratinés? Hannibal dort sur ses genoux. Elle n'a pas envie de le réveiller. Elle préfère se perdre dans ses souvenirs. Elle repense à ce soir de janvier 2005 où tout a basculé. Toutes ces années, elle s'était persuadée que le petit prince avait été tué par Saint-Exupéry pour devenir enfin adulte, pour pouvoir grandir. Oh, pas pour partir à la guerre comme tout le monde l'a cru si stupidement. Pour partir à l'amour. Pour pouvoir enfin aimer comme un homme aime une femme. Pour pouvoir aimer comme une grande personne. Pour l'aimer, elle, un jour. Ce soir d'hiver-là, au New York City Opéra, elle est allée voir la fameuse adaptation lyrique du roman de Saint-Exupéry. Le petit prince y était interprété par un merveilleux enfant à la voix d'or, évidemment. Mais pour la première fois, le rôle de la rose était aussi tenu par une enfant. Une très jeune soprano au timbre de cristal. Et ce soir-là, elle réalisa. Elle avait 65 ans et elle comprenait enfin. Elle n'était pas tombée amoureuse de ce visiteur du soir, de ce géant, de cet écrivain savant. Non, elle était tombée amoureuse de l'enfant en lui, du petit prince. C'est lui qu'elle a cherché toute sa vie, parce qu'il aimait l'enfant en elle. Une rose boudeuse, vaniteuse et capricieuse. parce que maintenant que les hommes ne se retournaient plus sur elle, elle se sentait toujours aussi belle, grâce à la petite fille en elle. Marie-Swann avance son fauteuil jusqu'à la fenêtre et observe l'agitation de la 5e avenue. Elle sourit. Elle a menti à ces deux étranges détectives venus de France. Saint-Exupéry n'a pas tué l'enfant en lui. Il est vivant, cet enfant. S'il était mort, elle serait morte aussi.